1 Samuel 13, verset 15, et on va lire jusque 1 Samuel, chapitre 14, verset 6. « Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Geba de Benjamin et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins trois corps pour ravager. Un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual, l'autre prit le chemin de Beth-Horon, le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache ou sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyos, des tridents et des haches était émoussé et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Michmash. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Eli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan passait, cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Vous l'avez compris, on est dans un temps, une époque de conflit entre Israël et les Philistins. Et là, Israël était en très mauvaise posture. Dans les versets qui précèdent, on ne l'a pas lu, mais Saül a fait une grosse erreur. Le prophète Samuel lui avait dit d'attendre avant de faire le sacrifice. Et puis, Saül s'est impatienté, et puis est devenu incrédule, désobéissant. Et puis, il a fait l'Holocauste, et Samuel est arrivé en lui disant « Mais qu'as-tu fait ?» Et finalement, eh bien, Saül va être rejeté, hein, puisque Dieu lui dit par la bouche de Samuel « Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et donc, c'est un virage ici dans la royauté d'Israël. Il va bientôt y avoir un nouveau roi. Mais l'heure est grave parce que les Philistins sont répandus partout. Eux, ils sont 600 hommes, c'est pas grand-chose. Et en plus, à cause de ce qu'avaient fait les Philistins, eh bien, ils n'avaient pas d'épée, pas de lance, aucune arme, parce que les Philistins avaient supprimé les forgerons en Israël. Et donc, il n'y avait que Samuel et Jonathan qui avaient une épée. Chacun une épée. Mais comment lutter avec deux épées contre une armée de Philistins ? Alors c'est probablement ce qui a amené Jonathan à cette incroyable audace, parce qu'il a eu de l'audace, hein. Et on va relire le verset 1, chapitre 14. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Alors on se demande, mais pourquoi d'un seul coup il a cet élan, cette audace, ou on a envie de dire imprudence peut-être, hein, ou témérité, attaquer une vingtaine de Philistins dans ce poste, hein, risquer d'y perdre la vie. Mais ici on voit que c'est pas juste voilà son orgueil qui le pousse, c'est carrément une inspiration divine. En fait, il est inspiré par le Seigneur dans ce qu'il va faire. Jonathan, on avait vu ça il y a quelques mois ensemble, on avait étudié un petit peu sa personne. C'était quelqu'un de discret, quelqu'un d'humble et quelqu'un de fidèle. En fait, ces traits de caractère vont se révéler dans la suite de l'histoire. Si on lit la suite de Samuel, on va le voir dans son interaction avec le roi David. Et on va voir vraiment une humilité, une fidélité, une attitude vraiment remarquable. C'est un homme de qualité, un vrai homme de qualité. Alors, il n'est pas dit de lui qu'il avait un cœur selon l'Éternel, comme David, mais il n'était pas loin où il l'avait. Hein. Simplement, Dieu a voulu mettre en exergue celui de David. Et alors, Dieu ne pouvait se servir, il ne pouvait que se servir d'un homme qui était comme celui-là. Au moment où son père, donc Saül, désobéit, chute et s'éloigne de Dieu, eh bien c'est Jonathan qui va être utilisé pour être un instrument entre les mains de Dieu. Alors il dit, « Viens, poussons jusqu'au poste des Philistins. » Verset 2, « Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait 600 hommes. » Alors le grenadier de Migron, ce qui est intéressant, c'est que ce mot Migron, ça signifie « conflit ». C'est le lieu du conflit. Donc en fait, Saül était sous le grenadier du conflit, et c'était vraiment l'homme du conflit. Un homme qui se mettait en conflit avec les autres, et particulièrement en conflit avec David, même il va se mettre en conflit avec son propre fils, Jonathan. Et au contraire, eh bien Jonathan, lui, c'était un homme qui ne se mettait pas en conflit, mais qui cherchait au contraire la paix et l'humilité et la bonne attitude de cœur. Alors versets 4 à 5, « Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre, l'une portant le nom de Botsets, l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. » Imaginez ces deux rochers immenses en forme de dents. Ils passent au travers de ces rochers et l'un de ces rochers, Botsets, ça signifie « hauteur ». Et l'autre rocher, donc Séné, ça signifie élevé. Donc il passe au milieu de la hauteur, au milieu de ce qui est élevé. Et c'est comme s'il y a une image ici de Dieu, en fait, de la présence de Dieu. Il est cerné, il est entouré de Dieu, il est dans la volonté de Dieu, en fait. Hein. Jonathan est vraiment dans la volonté de Dieu. Et quand on fait ce que Dieu veut, alors on est cerné par lui. Il est là, il est partout. Hein. David disait dans le psaume 139, « Tu m'entoures par devant, par derrière, tu mets ta main sur moi. Si je prends des ailes, les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta droite me saisira. » Donc Dieu garde, Dieu protège, Dieu entoure un enfant qui est dans sa volonté. Et même s'il doit vivre des épreuves, Dieu est là, Dieu est fidèle. Et la suite de l'histoire de David nous le montre. Jonathan est exactement là où Dieu veut qu'il soit. Il fait exactement ce que Dieu veut qu'il fasse. Regardez verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Alors bien sûr, ce qui est remarquable ici, c'est sa foi, hein. Jonathan croit que Dieu peut faire l'impossible, l'incroyable. S'il le veut, il le peut. Et il sait que Dieu donc peut faire un miracle, qui peut accorder cette victoire. Mais ici, Jonathan n'avance pas avec une certitude qui est absolue sur le fait que Dieu va le faire. Il sait que Dieu peut le faire, mais il n'est pas sûr à 100% que Dieu va le faire. Alors il s'avance avec un « peut-être ». Il y a un « peut-être ». Et dans ce peut-être, on peut aussi y voir une soumission au Seigneur. Il est soumis. La volonté de Dieu n'est pas forcément notre volonté. Et s'avancer en disant « Je suis sûr que Dieu va le faire », alors que c'est qu'un désir personnel, qu'une pensée personnelle, ou une prétention, pire, personnelle, ben c'est dangereux. C'est dangereux. Et ça permet de dire qu'il faut aussi prendre garde à ne pas dire des choses dont on ne sait strictement rien. Parfois, on ne sait pas. Parfois, un chrétien peut dire « Oh, je sais ce que Dieu va faire pour toi. J'en suis sûr, il va le faire pour toi. » Est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'on en est vraiment convaincu? Alors nous, on va le prendre comme un acte de foi de sa part. Mais il y a une différence entre ce que Dieu peut faire et ce que Dieu va réellement faire. Et il y a une différence entre dire « Dieu peut le faire » Je prie pour cela, j'espère dans la grâce qu'il va le faire pour toi. Et puis, je sais que Dieu va le faire, c'est sûr. Il y a une vraie différence. Jonathan dit, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. C'est finalement dire, Seigneur, voilà, je l'espère, mais je te laisse libre de le faire. Je te laisse libre. Pourquoi ? Parce que rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Donc je crois en lui, je m'en remets à lui, c'est possible, je le sais. Alors bien sûr, Dieu peut donner une conviction intérieure qu'il va faire quelque chose. C'est possible ça. Il place en nous une certitude qu'il va le faire. Par exemple, quand David se retrouve devant Goliath, cet immense guerrier philistin, David va dire « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Mais ici, ce n'est pas simplement un acte de foi, c'est carrément une parole prophétique. En fait, hein, il est poussé par le Saint-Esprit, inspiré, il est en train de dire ce qui vient de Dieu, c'est une conviction, et Dieu peut nous donner aussi une parole de foi, c'est possible. Il nous donne une certitude, et ça coule, ça sort, voilà, c'est parce que Dieu va le faire, et c'est quelque chose de certain. Mais c'est sous l'inspiration qu'une personne va dire une chose pareille. Il faut faire la différence entre, voilà, c'est Dieu qui a vraiment inspiré, et c'est mon propre cœur qui affirme des choses. Un autre exemple, c'est l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego qui se retrouvent devant le roi Nebuchadnezzar. Ils sont sous la menace d'être jetés dans la fournaise, vous vous souvenez de cette histoire, donc brûlés vifs. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, on peut prendre Daniel 3, 17 et 18. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Et dans cette réponse à Nebuchadnezzar, ben, il y a la foi, hein, assurément, il y a la foi de ces hommes, foi que Dieu peut les délivrer si c'est sa volonté, et ils ont confiance dans tous les cas, quelle que soit l'issue, qu'ils seront délivrés de ce roi, de Nebuchadnezzar, d'une manière ou d'une autre. Mais ils ajoutent, sinon, ou dans d'autres traductions, c'est, s'il ne le fait pas, ou bien, mais même s'il ne le fait pas, ou à supposer qu'il ne le fasse pas, alors nous ne servirons pas tes dieux. Et donc, ils espèrent vraiment, bien sûr, être délivrés de la fournaise, mais ils se courbent devant Dieu, ils sont petits devant lui, et Seigneur, voilà, ta volonté, et que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Et on ne sait pas forcément ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui invite à de la modestie, ça invite à plus de sagesse, plus de retenue. Parfois, le chrétien voudrait tellement avoir la capacité de parler avec foi, avec autorité, qu'il peut avancer des choses que Dieu n'a pas voulu et que Dieu ne veut pas. Il n'y a pas cette pondération, ce « peut-être ». C'est si la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu. Non, ça va, je sais que Dieu le veut. Je sais que Dieu va te guérir. Je sais que Dieu ne veut pas que tu souffres et tu ne souffriras pas. Je sais que tu n'auras pas cette épreuve. Je sais. Est-ce que je sais vraiment? Est-ce que j'en suis sûr? André Touche, donc c'est quelqu'un qui était dans notre église pendant 2 ans, qui est maintenant missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée. André Touche a envoyé une lettre donc pour nous souhaiter ses vœux. Elle est là-bas affichée sur le panneau, vous pourrez la lire si vous voulez. Et il dit dans cette lettre, « Aujourd'hui, nous devons évacuer un homme du village, Siméon, qui a de sévères douleurs abdominales et qui est maintenant inconscient. C'est un jeune père de 3 enfants, merci de prier pour lui. » Donc ça, c'était il y a quelques jours, hein, et pendant 5 jours, les chrétiens ont prié, ceux qui étaient au courant ont prié aussi, hein, j'avais envoyé par email, il me semble. Mais il y a 3 jours, André nous a écrit, et il dit, « Siméon, l'homme qui a été évacué samedi dernier, vient de décéder. C'est très triste, il n'avait encore pas pu entendre la bonne nouvelle du salut, mais nous savons que Dieu contrôle toute chose et qu'il n'a pas été pris par surprise. S'il vous plaît, priez pour sa femme Lucie et ses enfants dans ces moments douloureux. » Et on peut prier, hein, pour sa femme Lucie et pour ses 3 enfants, si vous pouvez penser à elle dans les prières. Mais imaginez qu'un chrétien ait dit à cette femme il y a quelques jours, « Oh, mais ton mari va guérir, j'en suis sûr, il va le guérir, il va le faire. » Et puis finalement arrive cette issue. Eh bien, c'est quelque chose qui est dramatique. Quelque chose qui est dramatique. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé? Et malheureusement, elles sont nombreuses, nombreuses, les personnes qui sont blessées, déçues, amères. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné des promesses, on leur a donné des certitudes, en fait, qui ne furent que des désillusions, que des erreurs. C'était faux. C'était pas forcément ce que Dieu voulait ou la manière dont Dieu le voulait. Alors oui, on croit tous que Dieu peut faire des grandes choses. Ça, c'est certain. Mais croire que Dieu va les faire, ça, c'est une autre affaire. Hein. C'est peut-être l'affaire de notre volonté, mais pas l'affaire de la volonté de Dieu. Il y a une grande différence entre notre volonté et la sienne. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et la foi, elle peut affirmer des choses, mais uniquement quand elle en a reçu la conviction de Dieu lui-même. Quand c'est Dieu qui place cette conviction dans notre cœur. Alors, quand on l'a reçue, alors oui, on peut l'affirmer avec certitude. Et cette certitude, eh bien, soit elle est donnée par grâce, comme ça. David, ça s'est fait très rapidement. Hein. Il était convaincu que Dieu allait le faire. Et Dieu l'a fait. Ou bien, Dieu nous le donne aussi parfois dans la prière. On est derrière la porte de sa chambre et on prie, et on lutte et on intercède. Et finalement, il y a cette conviction qui descend dans notre cœur parce qu'il y a un combat. Et tant que le combat n'est pas remporté, eh bien la victoire elle n'est pas acquise. Mais une fois qu'on a lutté jusqu'au bout, alors eh bien, ça y est, on a la victoire. Et on sait que Dieu va le faire avec certitude et on peut l'affirmer avec la foi. On est sûr. Maintenant, pour ce que Dieu affirme dans les Écritures, alors là, on peut l'affirmer aussi. On peut le dire avec certitude. Par exemple, j'ai des difficultés, on peut dire avec certitude, je sais que Dieu pourvoira à tes besoins. C'est certain. Pourquoi ? Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Il a dit, c'est une promesse, c'est lui qui s'engage. Alors, eh bien, on peut dire avec lui, mais je sais qu'il va le faire. Et foi, et confiance. Mais il y a plein d'autres choses où là, on ne sait pas. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté. Pour Jonathan, on reprend notre histoire. Lui, il ne sait pas encore qu'il est emporté par une inspiration divine au poste des Philistins. Il n'a pas encore une conviction absolue que c'est la volonté de Dieu. Il ne sait pas, il tâtonne. Alors il dit, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous ? Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Par contre, il a à ce moment-là une conviction dans le cœur, c'est que Dieu peut faire des miracles et des grandes choses avec un petit nombre. Ça, il en est convaincu, absolument convaincu. Et quel petit nombre? Ils sont simplement deux à monter au poste des Philistins. Et deux, on pourrait se dire, mais c'est vraiment quantité négligeable. C'est rien du tout. Qu'est-ce que peuvent faire deux hommes? Mais quand Dieu anime le cœur de quelqu'un, alors la foi, elle peut lui faire faire des choses qui sont impossibles. Et Jonathan est réellement poussé par le Seigneur. Regardez le verset 7. « Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » Et c'est encore un signe ici que Dieu est avec Jonathan. Parce que Dieu met une approbation dans le cœur de celui qui était le plus proche, donc ce jeune homme qui portait ses armes, en sachant que c'était au préjudice de sa vie. Si Jonathan tombe, il est sûr que le porteur d'armes tombe aussi. Et il dit, mais vas-y, je suis avec toi, je te suis. Alors, versets 8 et 9. « Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montre-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place. » Et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Et Jonathan va regarder comme un signe les circonstances que Dieu va permettre. Hein. Et il se met carrément à découvert. Hein. On va se mettre à découvert. Et s'ils disent « Allez, montez vers nous », alors eh bien, c'est que l'Éternel les livre entre nos mains. C'est quand même un peu osé. Il aurait pu essayer de se dire, bon, ben, on va les attaquer de nuit, on va les prendre de revers, on va essayer de les faire descendre de là où ils étaient pour les mettre dans une position de faiblesse. Mais non, il choisit de s'exposer carrément et d'oser monter, hein, même en s'aidant des mains, des pieds, s'exposer à ces hommes. Et dans cette décision, eh bien, Jonathan compte aussi sur la foi. Alors, est-ce qu'il était dans une situation où il disait, bon, ben, soit Dieu nous aide, soit c'est perdu? Je ne sais pas. Toujours est-il, il espère en Dieu, il a foi, il préfère compter sur Dieu que plutôt de compter sur ses stratagèmes ou sa manière de faire. Et il dit, mais ça nous servira de signe. S'ils disent, montez vers nous, ah ben, c'est que Dieu les livre entre nos mains. Alors, à l'époque, dans l'Ancien Testament, on voit que les croyants regardaient beaucoup des signes. Ils se fiaient beaucoup à des signes pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Alors, Dieu peut permettre aussi des signes pour nous, c'est vrai. Mais il ne faut plus que nous vivions en se disant, eh ben, il me faut un signe, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe autour de moi. Pas forcément. Il y a quelque chose que nous avons en plus par rapport aux croyants de l'Ancien Testament, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, dans la mesure où on l'a véritablement reçu. Hein. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, ça implique d'avoir donné son cœur à Jésus-Christ, d'avoir dit, Seigneur, entre. Alors, il rentre par son Esprit. Et si il est en nous, alors on a une personne en nous. On a une véritable personne. L'Esprit est une personnalité. Il parle, il ressent, il s'attriste. Il agit, il interagit en nous. Et donc, il faut apprendre à développer aussi cette relation avec le Seigneur par le biais de l'Esprit. Et l'Esprit est vraiment celui qui nous aide à marcher avec le Seigneur et à entendre sa voix. C'est important d'apprendre à entendre sa voix. C'est important d'apprendre à ressentir sa tristesse quand on, voilà, il y a quelque chose que l'on fait et c'est pas sa volonté. Ou bien de ressentir que, voilà, Dieu nous pousse, Dieu nous conduit. L'Esprit nous parle aussi par les Écritures. Il nous nourrit. Quand on lit, il nous éclaire. Il répond à nos questions. Apprendre à discerner la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Pas simplement des signes, mais compter sur le Seigneur et développer cette relation avec le Seigneur. Versets 12 à 14. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. » Voilà comment deux hommes, inspirés, poussés par Dieu, ont fait tomber un poste de Philistins. Ça pourrait sembler être une petite victoire, mais c'était la première victoire. Et c'était quelque chose qui était capital, décisif pour eux. Regardez verset 15. « L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. » Il y a quatre mots forts. L'effroi, la peur, l'épouvante, la terreur. Quatre mots qui nous montrent que cette petite victoire, elle a tout fait. En fait, cette petite victoire, ça leur a donné une merveilleuse victoire, une grande victoire. Deux hommes qui font tomber juste un poste, et finalement, c'est toute une armée qui est mise en déroute. Regardez, on va lire verset 16 à 23. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Akija, fais approcher l'arche de Dieu. Car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. À ce moment-là, Saül va vouloir consulter l'Éternel au travers du sacrificateur. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, retire ta main. Pourquoi ? On pense que le sacrificateur devait mettre la main sous l'éphod pour consulter l'Éternel, quelque chose comme ça. Mais Saül voit que c'est la panique chez les Philistins. Il dit, mais retire ta main. Et il veut s'en aller tout de suite et y aller. Verset 20, puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent. Et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés et se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Et quand on lit ça, on voit que Dieu a complètement renversé la situation simplement avec deux hommes. Deux hommes. L'ennemi, il était en position de force. Hein. C'était eux les plus puissants, ils avaient toutes les armes, ils avaient le nombre, ils étaient les mieux placés. Mais Dieu a fait tomber tout ça simplement avec une petite victoire faite par deux hommes à cause de l'audace, du courage, mais aussi de Dieu, hein, qui a inspiré ces deux hommes et qui ont obéi, qui ont fait ce que Dieu voulait. Il est dit la confusion était extrême dans le camp des Philistins. Extrême. Et on peut prendre ça comme un puissant encouragement pour nous aussi. L'Éternel peut sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ça veut dire qu'il peut sauver au moyen de quelques chrétiens qui sont réunis. Simplement quelques chrétiens. En son nom, on peut faire des grandes choses. Dieu peut opérer une grande délivrance. C'est possible. Simplement, si Dieu les inspire. Il peut sauver aussi au travers d'un couple fidèle. Là, c'était deux hommes. Hein. Mais vous savez, un couple fidèle qui prie, Dieu peut faire de grandes choses. Ou bien une personne toute seule chez elle, mais qui prie, ben Dieu peut faire des grandes choses. C'est certain. Regardez comment... Avec un simple enfant, Dieu a nourri une foule. 5 pains, 2 poissons, il n'avait pas grand-chose. Dieu a fait un miracle. Regardez comment avec simplement 4 lépreux qu'on rejette, hein, qu'on méprise, Dieu a sauvé toute la ville de Samarie. Hein, puisque avec une divine inspiration, ils sont allés à l'extérieur et ils ont vu que à ce moment-là, les ennemis qui étaient devant la ville de Samarie s'étaient enfuis, avaient été mis en déroute par Dieu. Imaginez si ces lépreux n'étaient pas sortis, ben toute la ville aurait péri. Mais parce qu'ils ont obéi, eh bien Dieu a sauvé simplement par 4 lépreux. Regardez Gédéon, qui est un peureux. Hein. Il a peur, il est dans la crainte. Et il va devenir un vaillant héros, inspiré par le Seigneur. Regardez aussi comment un prédicateur improvisé dans une tempête de neige a finalement été le levier de Dieu pour sauver des milliers et des milliers de personnes. Pourquoi ? Parce que c'était celui qui a prêché alors que eh bien, le serviteur de Dieu, le pasteur, n'était pas là à cause de la tempête de neige. C'est lui qui a prêché devant quelques fidèles à un homme qui s'appelait Charles Spurgeon, qui était tout jeune, mais qui après est devenu eh bien, ce célèbre prédicateur qui a sauvé des milliers et des milliers de personnes en Angleterre. Et le prédicateur était là, bégayant quelques mots avec le peu qu'il avait, et Dieu a fait des miracles finalement au travers de cet homme. Et on se dit parfois qu'on ne sert pas à grand-chose, que notre vie elle est inutile, sans raison apparente. Mais Dieu se sert de personnes petites, de personnes fidèles, qui font ce que Dieu leur demande. Simplement, la fidélité. La fidélité. Et il fait des grandes choses, même avec un petit nombre. Il y avait un livre qui m'avait beaucoup touché, c'était « Libérer du syndrome de la réussite ». Libérer du syndrome de la réussite. Qu'est-ce que Dieu nous demande ? Est-ce qu'il vous demande la réussite dans tous les domaines de votre vie? Non. Il vous demande la fidélité. Que vous soyez fidèle. C'est tout. Et Dieu fait le reste. Dieu s'occupe du reste. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes, nous dit-il dans la parole. Alors j'ai donné comme titre à ce message une inspiration divine. Et c'est là ce qui compte finalement. C'est d'être fidèle au Seigneur, d'obéir, de faire ce qu'il nous demande. Et l'inspiration divine, elle vient de lui. C'est lui qui nous pousse à faire ou ne pas faire, aller dans telle ou telle direction. Et c'est lui qui nous amène à faire des choses qui le glorifient. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que représentaient Moïse et Aaron devant le pharaon d'Égypte? En un instant, Pharaon, voilà, il leur faisait couper la tête. Hein. C'était pas grand-chose. Et pourtant, ça m'impressionne. Aaron et Moïse, ils vont. Et puis à chaque fois, ils lui répètent la même chose, l'irritant. Et Pharaon ne fait rien. Il les laisse repartir à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette inspiration divine. Parce qu'ils étaient en train de faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Alors, eh bien, Pharaon n'a rien fait. Et Moïse a dit au peuple... « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et Dieu a accordé une délivrance incroyable avec un homme qui était faible, même qui dit, selon ses propres mots, qu'il bégayait, qu'il avait la langue embarrassée et qu'il ne pouvait rien faire. Alors, eh bien, simplement soyons humbles et fidèles. Fidèle au Seigneur, attendons-nous à lui et qui nous inspire et qui nous conduise.